Les rencontres de Pétrarque. Hervé Gardette.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux rencontres de Pétrarque, des rencontres que vous retrouvez chaque année en début d'été depuis plus de 30 ans, mais dans une configuration particulière pour cette édition 2020. Nous ne sommes pas à Montpellier, nous ne sommes pas en public, pandémie oblige, il nous a fallu revoir notre dispositif. C'est donc en studio à Paris que vont se dérouler ces rencontres toute cette semaine autour de la question de la mondialisation. Sommes-nous enfin prêts pour la mondialisation, ou du moins pour une autre mondialisation? C'est la question que nous allons décliner jusqu'à vendredi. Le temps du débat reviendra lundi prochain avec Emmanuel Laurentin. Vendredi, justement, nous nous demanderons si l'homme est à sa place dans la nature. Nous le ferons en compagnie de la philosophe Vinciane Després, du neurobiologiste Alain Prochiante et du biologiste Gilles Boeuf. Jeudi, à qui confier le gouvernement du monde? Question qui sera posée à la juriste Monique Chemillet-Gendreau, au romancier et diplomate Jean-Christophe Ruffin et au directeur du Forum de Paris sur la paix, Justin Weiss. Mercredi, faut-il relocaliser la mondialisation? Nous serons en compagnie du syndicaliste ancien eurodéputé José Bové, de l'écrivain Éric Orsenna et de l'économiste Isabelle Méjean. Demain, mardi, avec le philosophe Achille Mbembe, l'essayiste Laetitia Strauss-Bonnard et l'historien Romain Bertrand, nous poserons la question suivante. Les Occidentaux ont-ils vécu dans un monde à part? Et aujourd'hui, nous vous proposons un dialogue inaugural inédit puisque c'est la première fois que nos deux invités du jour, deux intellectuels qui n'ont pas peur d'aller sur le terrain, vont converser ensemble autour de la question suivante qui pourrait presque faire office d'un sujet du bac philo. Dans quel monde vivons-nous? Et j'ai le plaisir donc d'accueillir ce soir, même s'ils sont à distance, que je ne les verrai pas et qu'ils ne se verront pas, et Régis Debray et Philippe Descola. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Régis Debray. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors, j'entends un halo, ça doit être Régis Debray. Je vous présente, ça va vous?
Effectivement, oui.
Eh ben, écoutez, ça m'arrange parce que c'est vous qu'on avait invité, justement. Vous êtes écrivain, philosophe, je vais pas faire tout votre CV. Parmi vos nombreuses publications, j'en cite deux quand même parce qu'il me semble que ce sont deux publications qui vont être intéressantes ce soir par rapport à notre thème de discussion. Deux publications chez Gallimard. La première, c'était en 2017. Civilisation. Comment nous sommes devenus américain. Et puis cette question de la civilisation, elle est revenue cette année dans la collection Tract, toujours chez Gallimard, et votre siècle vert, un changement de civilisation, un ouvrage dans lequel vous le dites avec beaucoup plus de termes que ce que je vais résumer, mais nous avions vécu sous la cloche de l'histoire, nous vivrons désormais sous celle de la nature. La nature qui, selon notre deuxième invité n'existe pas. Et notre deuxième invité, c'est Philippe Descola. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature au Collège de France. Là aussi, je vais citer deux de vos publications, Par de la nature et culture. Bah, tiens, c'était encore chez Gallimard en 2005. Et puis un ouvrage à la fois plus ancien et plus récent, La nature domestique. C'est votre thèse, le travail que vous avez effectué auprès des Indiens Achuar en Équateur, c'était au début des années 70, thèse publiée et republiée il y a quelques mois de cela par la Maison des sciences de l'homme. Alors je vais commencer par vous poser à l'un et à l'autre la même question. Je vais commencer avec vous, Philippe Descola. Est-ce que vous diriez que cette pandémie, dont il faut bien rappeler hein, qu'il ne faut pas en parler au passé, elle est encore en cours, est-ce que cette pandémie a ébranlé vos certitudes ou bien est-ce que vous diriez au contraire qu'elle les a renforcées?
Non, elle n'a pas ébranlé mes certitudes. Par expérience d'américaniste, la connaissance de ce qu'ont fait les épidémies, les maladies infectieuses au moment de la conquête de l'Amérique entre le XVIe et le XVIIIe siècle, elles ont fait disparaître dans certaines régions des Amériques à peu près 90% de la population amérindienne. Donc ça n'a rien de nouveau, les pandémies. Nous vivons avec des pandémies depuis les débuts de l'hominisation. Simplement, ce qui est surprenant dans celle-ci, c'est d'une part qu'elle s'est répandue à une vitesse beaucoup plus grande que les pandémies précédentes, et d'autre part qu'elle a bouleversé la vie sociale et économique en raison du confinement d'une façon beaucoup plus ample que par exemple la grippe espagnole un peu après la Première Guerre mondiale. Donc je ne suis pas surpris parce que les historiens et les ethnologues ont une expérience des catastrophes, pas directes, mais en tout cas par les lectures qu'ils font et par leur connaissance et du passé et de la diversité des sociétés humaines, qui fait que les accidents, les épidémies, les catastrophes sont des choses qui font partie de la vie humaine. Simplement, je n'en avais jamais éprouvé dans ma chair les conséquences personnellement. C'est tout.
Mais c'est tout et c'est déjà pas si mal. Comment est-ce que vous répondriez-vous à cette question, Régis Debray ?
À la question des certitudes ?
Oui. Ou des incertitudes, peut-être d'ailleurs ?
Chacun ne regarde dans un événement que ce qui lui donne raison. Alors, une raison de s'entêter plutôt que de s'instruire. Alors moi, effectivement, j'ai tendance à voir conforter mes certitudes, mais je voudrais pas tomber dans ce travers, si vous voulez, qui est un travers très narcissique. On tue beaucoup d'intellectuels depuis 2-3 mois qui nous ont produit un déluge finalement d'autoportraits ou d'autopromotion. Non, moi, j'ai été sensible effectivement à ce que dit Philippe Tescola, savoir que c'est un événement qui nous fait toucher au fondement, qui nous fait rappeler l'histoire longue, qui n'est pas le premier, mais c'est vrai que ce qu'on lisait dans les livres, disons, chez Camus ou chez Bocasse, tout d'un coup, on le vit. Donc c'est vrai que c'est une expérience, mais j'ai l'impression qu'on est simplement revenu aux fondamentaux, aux fondamentaux de la vie humaine, c'est-à-dire à ce que Simone Veil appelait à la fois le besoin de sécurité et le besoin de risque. Le besoin de sécurité pour s'abriter de la peur, et le besoin de risque, je dirais, pour sortir de l'ennui, de la monotonie, pour se réveiller, pour un peu, si j'ose dire, se fouetter le sang. Donc, voilà. Moi, je suis plus sensible, je dirais, au retour du refoulé, voyez-vous, c'est-à-dire, finalement, comment un événement comme ça fait remonter en nous tout ce que l'on croyait dépassé, tout ce que l'on croyait en arrière de nous, c'est-à-dire, la frontière, le repli sur soi, la recherche de l'abri, une sorte de retour au primitif, si vous voulez, dans les réactions des uns et des autres. Voilà ce qui m'a frappé. Mais là encore, c'est peut-être une projection de mes marottes. Donc je vous dis ça avec toutes les précautions.
Et on va voir si les projections des marottes de Philippe Tescola le conduisent à un même constat. Et j'ajouterai d'ailleurs une question, tout en vous faisant réagir à ce que vient de dire Régis Debray. Philippe Tescola, mais vous notiez au début de votre intervention le fait que cet accident, cette catastrophe s'inscrit aussi dans une histoire des catastrophes. Ça peut conduire à la fois ce que dit Régis Debray, c'est-à-dire on retrouve un certain nombre de choses qu'on croyait peut-être avoir disparu, mais ça peut aussi conduire peut-être à relativiser ce que l'on est en train de vivre, et ça n'est que peut-être justement qu'un accident dans la longue marche de l'humanité, voire davantage.
Ah, c'est certainement un accident dans la longue marche de l'humanité, mais cette pandémie nous a surtout mis face à l'incertitude. Je ne suis pas le premier à le dire, Régis Debray l'a dit aussi il y a un instant. Dans un monde qui est le nôtre ici en Europe et dans les sociétés industrielles et post-industrielles, nous avons pris l'habitude d'être encadrés depuis la fin de la dernière guerre mondiale et des catastrophes du XXe siècle par l'État, par des dispositifs qui nous protègent et qui sont le prolongement de l'État-providence tel qu'il a été pensé et mis en œuvre en Europe à la fin du XIXe siècle. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que pour beaucoup de gens en tout cas, ce train-train peut être bouleversé par un minuscule être qui se répand à la vitesse de la foudre tout autour du monde. Et cette incertitude, au fond, nous n'en avions plus l'habitude. Elle est commune à bien des peuples, encore à l'heure actuelle, qui vivent dans la tragédie du déplacement, de la misère, de la guerre, de la famine. Elle est commune aussi pour bien des sociétés qui me sont plus familières et dont le système, disons, de subsistance est tel qu'il implique une certaine imprévisibilité du lendemain. Et tout d'un coup, nous nous apercevons que cette imprévisibilité, cette incertitude, cette impossibilité de penser le futur, ce qu'on appelait et ce qu'on appelle toujours en ce moment le monde d'après, est quelque chose qui nous affecte aussi.
Est-ce que vous diriez, Philippe Descola, que c'était peut-être aussi, alors peut-être pas sous cette forme-là, mais enfin en tout cas qu'il est nécessaire de temps en temps d'être à nouveau confronté à l'incertitude, peut-être parce que ça limite aussi, je ne sais pas moi, une forme d'arrogance. Quand on se croit protégé, on peut aussi se croire tout puissant.
Ben, je crois que c'est absolument fondamental, parce que non seulement ça nous fait descendre de notre piédestal, mais ça nous fait prendre conscience que le présent dans lequel nous vivons et qui nous paraît éternel ne l'est en réalité pas, et que nous attend au coin du bois, au coin du siècle en l'occurrence, une catastrophe qui est sans doute encore plus d'ampleur plus grande que celle que nous traversons maintenant, mais qui va se dérouler de façon beaucoup plus lente, beaucoup plus progressive et de façon plus insidieuse, qui est celle des effets du réchauffement climatique, dont encore une fois nous allons, nous Européens, sans doute moins souffrir, en tout cas dans l'Europe tempérée que nous habitons, que dans bien d'autres régions du monde. Et donc cette fin de l'histoire qu'on avait célébrée à grands cris comme une chose très satisfaisante nous saute à la figure, et nous nous apercevons que non seulement ce n'est pas la fin de l'histoire, mais que cette incertitude nous fait sortir d'une sorte de présent éternel qui est fondé sur un oubli du passé aussi, et de la diversité culturelle, sociale, économique du monde. La question que vous posiez, c'est dans quel monde vivons-nous ? Mais nous, je crois que nous vivons dans des mondes très très différents, qui par moments sont unifiés par des facteurs comme une pandémie ou le réchauffement climatique, et bien sûr la mondialisation économique, mais qui font se coïncider en quelque sorte des trajectoires individuelles et collectives pour les ensuite reséparer au gré des circonstances.
Partagez-vous cette idée, Régis Debray, que nous vivions dans des présents éternels, dans un présent éternel, nous, c'est-à-dire les Européens, et que cette pandémie a contribué à nous en faire sortir, à peut-être vivre dans un présent beaucoup plus commun à l'échelle globale et pas seulement notre présent à nous d'Européens.
Oh là là, il y a beaucoup d'idées dans ce que vous avancez. Bah, d'abord, un rappel d'humilité, n'est-ce pas ? Il y avait un certain orgueil dans le monde occidental et la découverte au fond que l'après peut ressembler à l'avant, que le post-industriel peut voir revenir des pestes du 14e siècle, par exemple. Donc, je crois que c'est une sorte de retour au réel. Exercice d'humilité également pour une classe dirigeante, pour des premiers de cordée qui avaient oublié que, au fond, leur vie dépend des derniers de cordée, n'est-ce pas ? Donc, une sorte de, je dirais, de retour au réel et la découverte que on ne peut pas gouverner uniquement par la comptabilité. Maintenant, puisque vous évoquez la mondialisation, moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, ou plutôt ce que me semble-t-il confirme cette récente histoire, c'est le paradoxe, si vous voulez, de la mondialisation d'un côté, des objets, des virus comme des techniques, et de l'autre de la tribalisation, du retour à un réflexe tribal, c'est-à-dire au fond cette sorte d'étrange combinaison entre une interconnexion et un repli. repli sur soi, une sorte de besoin de se préserver dans son enclos. Et ça, ça me semble, si vous voulez, très symptomatique de la réalité de notre siècle, dans lequel on assiste à la fois, je dirais, à une mondialisation technique et à une balkanisation, une tribalisation culturelle, si vous voulez. Les objets et les virus circulent, mais les sujets ne circulent plus. Ils restent chez eux, confinés. Et je dirais qu'il y a là peut-être tout le paradoxe, si vous voulez. On peut appeler ça l'ovive dialectique, si vous voulez, la rencontre de deux phénomènes contradictoires. D'un côté, une formidable ouverture de l'espace, et d'autre part, une sorte de crispation, de retour à la maison, pour ainsi dire. Ça me semble être, je dirais, attesté par cette catastrophe, qui a vu ressurgir tout de même des réflexes très égotistes. Je parle des nations, des frontières fermées, et même de chacun d'entre nous, puisque, curieusement, notre chef de guerre, que fut le président de la République, a commencé la guerre en nous disant « planquez-vous », ce qui est tout de même assez paradoxal, n'est-ce pas ? Évidemment, ce n'était pas une guerre, c'était une métaphore complètement absurde. Plutôt ciel, si j'ose dire, que c'eût été une guerre. On aurait eu un ennemi, une stratégie, une mobilisation. Là, nous étions dans ce qu'il y a de plus tragique, qui est l'absence de sens, l'absence de volonté, la loterie, c'est-à-dire l'absurde, pour parler comme Camus. Donc, effectivement, je crois que, encore une fois, j'en reviens à Simone Veil, qui avait cette sorte de... qui avait proposé dans ses derniers écrits cette sorte de paradoxe en ce que nous avons à la fois besoin de sécurité, mais si on ne s'affronte pas à un grand défi, à un grand risque, eh ben, on ne se réveille pas, on tombe dans une sorte de confort intellectuel et moral. Disons qu'on a été très secoué, mais pour retrouver, je dirais, la nature fondamentale de l'animal humain, si vous voulez.
Comment est-ce que vous comprenez ce paradoxe, Philippe Descola, qui a effectivement conduit à vivre un événement global, quelque chose de relativement inédit à l'échelle du monde, et en même temps d'avoir ces réflexes tribaux? Alors je ne sais pas si Régis Debray accepterait de dire que ces réflexes tribaux peuvent être assimilés parfois à du nationalisme, mais en tout cas on a bien vu qu'il y avait un repli identitaire, repli derrière les frontières. C'est assez paradoxal.
Alors, les réflexes tribaux sont souvent des réflexes qui se propagent en réseau et qui ne sont plus comme c'était jadis le cas, notamment dans les manifestations les plus réactionnaires du tribalisme, c'est-à-dire l'attachement à la petite patrie, au lieu, au Heimat, à ses voisins. Ne correspond plus véritablement à cela, mais plutôt à des solidarités transnationales qui prennent ou offrent des configurations tout à fait singulières. J'étais il y a quelques mois à Notre-Dame-des-Landes, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et là j'ai été frappé de voir la densité des échanges de cette espèce de minuscule lieu mi-utopique, mi-révolutionnaire dans le bocage nantais, avec d'autres endroits du monde qui sont le Rojava du Kurdistan, qui sont les zapatistes du Chiapas, qui s'échangent non seulement des informations, viennent se visiter et constituent autour du globe un réseau transnational partageant les mêmes aspirations d'une démocratie, de la fin de la propriété privée, de l'entraide, d'une manière d'échapper et au capitalisme et à la dévastation de la planète, et qui peuvent constituer, si on veut, un tribalisme. Et c'est un tribalisme qui est très très différent de celui qui était chanté par Barrès, si on veut.
Et vous avez l'impression, Philippe Descola, que cette pandémie, elle a renforcé ces réseaux?
Je pense qu'elle a rendu conscient beaucoup plus de gens du fait que lorsque l'on est confiné, et grâce aux techniques de communication dont nous jouissons en ce moment même en parlant, nous pouvons nous relier au-delà de la distance par affinité intellectuelle, mais aussi par le même type d'attachement que nous pouvons noué avec des lieux. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que ce ne sont pas les mêmes lieux. L'attachement des zadistes au bocage nantais d'un côté, à ses habitants, à ses haies, à ses tritons, à ses salamandres, à ses zones humides, rejoint l'attachement des apatistes à cette zone de cette écotone, si je puis dire, entre les hauts plateaux et la forêt qu'ils occupent, et à leurs habitants non humains. Et c'est le même type d'attachement et le même type de développer au fond un projet politique qui aille au-delà de, disons, de ce qui Régis Debray et moi nous a mobilisés il y a quelques décennies, à savoir l'idée de construire un monde plus juste en luttant contre l'impérialisme, le capitalisme, etc. Et ce projet, en réalité, devient transnational par attachement à des lieux qui sont séparés dans l'espace, mais qui manifestent le même type d'attachement. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau.
Régis Debray, vous retrouvez dans les luttes que vient de décrire Philippe Descola, ce qui a pu être la lutte à laquelle vous avez participé, combat révolutionnaire, je rappelle, aux côtés de Che Guevara, ce qui vous a valu d'ailleurs de faire pas mal de prison. C'est des choses assez semblables que vous retrouvez.
Oui, je suis sensible à ce que dit Philippe Descola sur le renouveau. On peut dire d'une pensée utopique. Alors, utopique, ça veut dire pas de lieu, utopos. Mais là, il y a quelques lieux. Mais vous savez, il y avait aussi des monastères au Moyen-Âge qui formaient un réseau. Il y a aussi des universités qui ont créé, à un moment donné, la République européenne des lettres. Mais le Chiapas, j'y suis allé, j'y ai passé de plusieurs semaines avec Marcos. Je suis bien forcé de voir, malheureusement, que il n'a pas pu là s'installer ce qu'on aurait souhaité. Je suis bien forcé de constater que le Rojava au Kurdistan a rendu les armes et que voilà. Donc je crois qu'on ne peut pas. Il est bon de maintenir, si vous voulez, je dirais, ces idées régulatrices, ces idéaux mobilisateurs. Mais je les crois tout de même plutôt de fonctionner dans l'ordre de l'esprit plutôt que dans l'ordre de la transformation des choses, et je le dis avec beaucoup de regret. Mais ce sont des petites lueurs d'espoir, effectivement. Est-ce qu'elles peuvent répondre aux conditions actuelles de la production des biens, de j'en doute un peu, mais il est vrai qu'aujourd'hui l'accélération, disons, du basculement numérique est quelque chose qui est un peu nouveau. Je constate qu'on n'a jamais autant communiqué que lorsque nous étions confinés. Communiqué par mail, par WhatsApp, etc. Au fond, on a presque resserré des liens, n'est-ce pas, avec des amis, avec des lointains correspondants, comme une sorte de réflexe de camaraderie perdue qu'on aimait retrouver. Voilà. Mais je suis peut-être moins optimiste que notre ami Descola, qui a fait tout de même un excellent travail. Je dis ça en tant que lecteur, en nous apprenant que nature et culture sont entremêlées, ont un destin commun et qu'il ne faut pas les opposer bêtement, ce que nous avons aujourd'hui ou hier éprouvé. Mais j'ai envie de lui dire que cet entremêlement est parfois fâcheux dans la mesure où le virus est aussi un vivant, si j'ose dire, un non-humain capable d'affecter les humains. Voilà. J'aimerais savoir ce que Philippe Descola pense de cette de cette mythification de la nature aujourd'hui. Parce que tout de même, quand M. Hulot nous dit que le Covid-19 est un ultimatum de la nature, est une sorte d'interpellation de Gaïa, moi je suis bien forcé de penser à ce qu'on disait de la peste au XIVe siècle, que c'est la juste colère de Dieu, c'est-à-dire dans les deux cas, ce sont des messages que nous envoient des entités mythologiques, et je me demande si on a donc beaucoup progressé dans cette sorte de réflexe mytho-poétique, je ne sais pas comment dire, en tout cas magico-religieux peut-être, à savoir que le refus de la contingence, le refus de l'absurde est simplement la volonté de demander à une catastrophe d'y voir un message plein de sens. Là, je trouve qu'il y a précisément le retour d'un certain refoulé mythologique qui prouve que finalement, disons que l'être humain, dans ce domaine, n'avance pas beaucoup. Mais voilà, des vues un peu pessimistes, peut-être, que Philippe Descola va justement contredire.
Oui, quand vous dites, voilà, vous demandez si on a beaucoup progressé, j'entends dans cette question la réponse qui est la vôtre. Régis Debray, vous en pensez quoi, vous, Philippe Descola, de cette place de la religiosité? C'est vrai quand même très, très, très importante. On a vu beaucoup d'analyses nous expliquer que la Terre était en train de se venger, que la nature reprenait ses droits.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Régis Debray pour dire que c'est un retour du religieux, que l'idée que la nature se venge s'est calquée sur le modèle de la vengeance divine, bien évidemment. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai passé une partie de ma vie d'anthropologue à essayer de montrer que la nature est une construction métaphysique moderne que les Européens ont inventée à un certain moment de leur histoire. Avec beaucoup d'efficacité d'ailleurs, puisque c'est une notion, un arrière-plan qui leur a permis de se définir comme des agents historiques avec une destinée collective qui avait pour mission de maîtriser la nature en eux et la nature à l'extérieur d'eux-mêmes, de la comprendre, d'en tirer des ressources, etc. Mais pardon, c'est une notion qui n'a guère cours ailleurs dans le monde. Et donc l'idée d'une vengeance de la nature, c'est à la fois le prolongement de cette très vieille menace de la vengeance divine, et en même temps l'effet d'une une hypostase de la nature qui est une idée romantique, hein, c'est la nature marâtre ou la nature bienveillante ou la nature généreuse ou la nature qui se venge, c'est toujours la même chose, c'est une personnification de la nature et dont nous ne sommes pas encore sortis. J'ai souvent des débats avec mon ami Bruno Latour sur cette question lorsque, dans le livre qu'il a écrit il y a quelques années, nous n'avons jamais été modernes, il développait l'idée que, au fond, les modernes n'avaient jamais vraiment cru à la nature. Mais je pense que si, ils continuent à y croire et à lui prêter des dispositions anthropomorphiques, alors que partout ailleurs, on a des rapports avec les non-humains, des non-humains de toutes sortes, réels ou imaginaires, avec des esprits, avec des divinités, etc. Mais tout cela n'est pas totalisé dans une extériorité vis-à-vis desquelles les humains se définissent. Et c'est ça la grande différence. Et je pense qu'il faut encore faire un effort pour sortir de cette idée de la nature comme une totalité extérieure que nous pouvons maîtriser, dont nous pouvons nous rendre possesseurs, parce que nous en voyons maintenant, nous commençons à en voir les effets dramatiques avec la sixième extinction des espèces, avec le réchauffement global, avec la pollution des airs, des sols, des eaux, etc. C'est-à-dire concevoir l'ensemble des non-humains comme un gisement de symboles, de ressources, de capacités de nous transcender, etc., a eu des effets sans doute positifs. Il a contribué et au bien-être des Européens d'abord et ensuite des gens qui ont adopté notre mode de vie. Il a contribué au développement des sciences positives et en même temps à la dévastation de la planète. Et c'est, je pense, qu'une pédagogie de la, comment dire, de l'expérience quotidienne de notre interaction avec le monde, pas un monde qui est extérieur à nous et qualifié de nature avec un N majuscule, mais avec à la fois notre biome, avec les milliards de d'animalcules que nous abritons dans notre corps, avec les multitudes de relations que nous entretenons à tout moment avec notre environnement, essayer de d'éprouver et dans sa chair et dans sa tête la densité des relations que nous tissons à tout moment avec le monde et pas simplement avec la nature comme une sorte de comme une totalité abstraite est quelque chose qui nous permettrait peut-être d'échapper au fond à ces grands registres philosophiques que nous connaissons bien, Régis Debray et moi. Nous sommes passés par les mêmes formations et je pense qu'il faut se défaire de ces grandes figures qui sont moins des figures mythiques que des figures philosophiques.
Ces grands registres philosophiques, ils font appel à la philosophie des Lumières, la philosophie des droits de l'homme. On voit bien l'intérêt qu'il peut y avoir à ne plus penser la nature comme une totalité, mais comme le fait de se penser à l'intérieur même du monde vivant. Ça, ça peut être intéressant, mais il peut aussi y avoir un risque qui est de mettre au même niveau finalement l'ensemble du vivant. Je voudrais vous faire réagir à une phrase qui a été proposée par la Convention citoyenne pour le climat, vous savez, qui a travaillé pendant des mois sur un certain nombre de propositions et qui suggérer de modifier notamment le préambule de la Constitution avec cette phrase « La conciliation des droits, libertés et principes ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité ». Alors je précise qu'Emmanuel Macron a dit ce matin que finalement il ne retiendrait pas cette formule-là, mais Régis Debray, est-ce que avec ce changement de civilisation que vous évoquez dans votre siècle vert, il n'y a pas aussi le risque de renoncer à ce qu'ont été les acquis des Lumières?
Écoutez, je voudrais d'abord revenir sur ce que Philippe Descola disait et que nous partageons, je dirais, à la suite de Lévi-Strauss, d'Auguste Comte. Alors, c'est-à-dire que on ne peut pas faire de l'humanisme une sorte de corporatisme ou d'égotisme ou de syndicalisme humain, n'est-ce pas, séparé du reste du monde. Il faut évitons de constituer l'homme en une sorte de règne séparé. Et je crois que nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, il faut restituer un peu le réseau de tout ce qui nous permet de subsister, le réseau de nos relations avec le monde. Bon, de là à dire que l'arbre est de gauche, là je pense qu'il y a tout de même un saut que je ne ferai pas, je dis ça un peu ironiquement, parce qu'il y a actuellement quelques petits délires dans ce sens-là. Mais alors vous me posez une question sur cette phrase sur laquelle je n'ai pas réfléchi, qui me semble extrêmement vague. Je ne vois pas qui peut décider de ce qui... Quelle est l'autorité qui peut décider de ce qui est un écocide ou pas. Honnêtement, qui peut être en fonction de, je dirais, de déposer plainte contre qui, au nom de qui, à moins évidemment de constituer les ours ou Gaïa en partie civile. Non, honnêtement, je crains là une certaine judiciarisation un peu mythomaniaque Et honnêtement, mais je ne suis pas bien au courant de toutes ces choses.
Enfin, vous allez quand même plus loin dans votre tract chez Gallimard, Régis Debray. Quand vous essayez de qualifier le siècle passé et l'actuel, vous dites on sort de la lutte des classes du siècle rouge, là où on était vraiment dans des luttes pour l'émancipation des sociétés humaines. Et vous dites aujourd'hui, ce qui est combattu, c'est l'exploitation non pas de l'homme par l'homme, pour résumer, hein, mais l'exploitation de la nature par l'homme. Et vous avez cette formule, alors bon, c'est un pamphlet hein, forcément, mais dites l'ennemi principal n'est plus le patron, mais la fumée d'usine. Et on sent bien quand même que c'est quelque chose qui vous inquiète. C'est pas quelque chose dont vous vous réjouissez en tout cas.
Oui, ça m'inquiète effectivement, si vous voulez, que à force de réfléchir à l'arboretum, on oublie le forum, tout simplement. C'est-à-dire, on oublie qu'il y a des rapports sociaux, économiques, qui se jouent entre l'homme et l'homme, et pas seulement entre l'homme et la nature, même si les deux sont liés, bien entendu. Donc oui, je crains une certaine dépolitisation, au sens premier du mot, police, hein, la cité, et que il y ait, je dirais, comment dirais-je, une sorte d'oubli, d'abdication, à la fois des luttes sociales et politiques, à la fois également du futur, et en sorte ce serait peut-être un processus de décivilisation, mais là je force un peu le trait, mais effectivement il m'arrive de penser que qu'à force de guetter ou de craindre l'effondrement du système Terre, eh bien, on oublie qu'il peut y avoir également l'effondrement des services publics, l'effondrement des solidarités sociales. Bref, je ne voudrais pas, si vous voulez, que la nature devienne un alibi pour nous détourner du culturel et de la société, voilà. Mais ce n'est que, je dirais, comment dirais-je, une crainte. Ce n'est pas un constat, c'est une crainte, voilà. Mais je dis ça un peu pour contrebalancer certains enthousiasmes qui me semblent parfois dangereux, voilà.
Qu'en pensez-vous, Philippe Descola? Et je retiens cette phrase: à force de réfléchir à l'arboretum, on oublie le forum.
Oui, je pense que les résultats des dernières élections municipales, même si le taux d'abstention est effrayant, montrent que les deux sont complètement liés, c'est-à-dire que le souci ou l'attachement qu'on éprouve à un certain état de notre environnement. Et encore, quand j'emploie le mot environnement, j'ai bien conscience d'être anthropocentré. L'environnement, c'est ce qui nous environne, c'est-à-dire c'est ce qui est défini par rapport aux humains. Et même la proposition de réforme du préambule de la Constitution que vous évoquiez tout à l'heure est lui aussi très anthropocentré, c'est-à-dire la nature ou l'environnement comme patrimoine de l'humanité. Non, c'est quelque chose qui est indépendant de l'humanité, avec lequel l'humanité tisse des liens, de même que l'humanité tisse des liens à l'intérieur d'elle-même, elle tisse des liens avec les non-humains. C'est l'ensemble de ces liens qui constitue le défi de ce qu'il faut transformer au cours de ce siècle. Les Lumières ont étroitement lié l'émancipation humaine, la sortie de l'ancien régime, la nécessité de gagner des libertés individuelles avec l'émancipation économique, c'est-à-dire la sortie du servage, avec le développement des forces productives, comme on dit en termes marxistes. Et les deux ont été, au fond, étroitement liés pendant tout le 19e siècle par les penseurs socialistes et pendant une grande partie du 20e siècle aussi par les libéraux. D'une certaine façon, il y a un consensus sur le fait que l'émancipation, le bien-être, la liberté politique sont fondées sur l'exploitation des ressources naturelles. Or, on voit bien que cette exploitation, dans son caractère effréné, et au fond, maintenant, on s'en rend compte, n'est plus possible. Et donc, le défi qui nous attend, et alors je suis moins pessimiste que Régis Debray, dans ce siècle, c'est de penser une façon différente de maintenir, de conserver l'égalité politique et de la renforcer là où elle n'existe pas, et d'entretenir, de maintenir et de renforcer les liens avec des non-humains. On a des pistes intéressantes qui se sont dessinées de façon expérimentale. J'évoquais tout à l'heure des expériences comme les ZAD, par exemple, en Europe, mais je pense au fait de donner non pas des droits aux ours, aux loups ou aux musaraignes, mais à des milieux de vie. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, en Nouvelle-Zélande avec la rivière Whanganui, qui a une personnalité juridique, et les gens qui occupent cette rivière, c'est des Maoris, qui occupent les berges, ont des droits qui sont en partie dérivés des droits qui sont conférés à un milieu de vie. Je pense que ça permettrait de transformer la façon que nous avons de concevoir l'appropriation qui va toujours des humains vers la nature, vers l'environnement, que ce soit des appropriations individuelles ou collectives, et qui est au fond l'histoire de la transformation de biens communs. Depuis au moins le mouvement des enclosures en Angleterre, jusqu'à maintenant, de transformation de biens communs en biens privés.
Philippe Descola, voilà, malheureusement, on est quasiment au terme de notre discussion. Et comme je vous avais donné la parole en premier, je vais laisser, voilà, c'est pour le sens de l'équilibre, conclure Régis Debray.
Non, il est certain que si l'écologie est conséquente, elle ne peut qu'être anticapitaliste. Ça veut dire de faire des alliances qui ne sont peut-être pas du goût de tout le monde. Mais ça, c'est une question de conjoncture, je ne suis pas journaliste. Moi, je voudrais simplement dire à Philippe Descola que je partage totalement son combat, mais j'ajoute un point. Pour moi, le patrimoine commun de l'humanité, c'est l'histoire de l'humanité. C'est le passé de l'humanité. C'est le récit commun de cette histoire qui peut faire de l'humanité un seul peuple. Donc, je ne voudrais pas qu'on oublie, eh bien, tout simplement, ce que Auguste Comte, excusez-moi, je suis un peu un vieux schnock, mais j'aime beaucoup Auguste Comte, ce qu'Auguste Comte nous rappelait, à savoir que l'humanité est faite de plus de morts que de vivants. Bref, je ne veux pas qu'on abandonne la dimension historique qui est fondamentale dans le progrès de l'humanité pour une sorte de repli géographique sur l'espace. Voilà, j'aime beaucoup la géographie, mais je demande qu'on ne la sépare pas de l'histoire, ce que nous faisons depuis longtemps avec les cours d'histoire géo. J'adore ce trait d'union.
Voilà. Eh ben voilà, merci beaucoup. Je me doutais que ça serait beaucoup trop court que de vous faire dialoguer tous les deux, mais enfin, en tout cas, je suis ravi, voilà, qu'on ait pu vous réunir l'un et l'autre, Régis Debray, Philippe Descola. Merci beaucoup d'avoir inauguré cette nouvelle édition des Rencontres de Pétrarque qui continue demain. On posera la question suivante: les Occidentaux ont-ils vécu dans un monde à part? Des rencontres qui sont préparées par Aurélie Marsay, réalisées par Véronique Villa, avec à la prise de son Nasser Moussaoui. Merci beaucoup.